dans le Douaisis, le collectif Alerte la Brayelle, la Brayelle, nom d'un lieu-dit, dénonce l'ambition de Douaisis Agglo d'obtenir de la région l'autorisation d'artificialiser une quarantaine d'hectares de terres agricoles pour y développer des projets industriels. Alain Tellier et Gaëtan Cavite, membres du collectif Alerte la Brayelle.
Alors, il y a 6 associations qui sont dans ce collectif. C'est le collectif Alerte la Brayelle. Donc, il y a France Nature Environnement. Il y a le groupe ornithologique et naturaliste avec Gaëtan qui est ici au micro. Et il y a aussi Terre de Lien. Il y a Coincy Environnement Santé. Il y a l'Union écologique de Flers.
Et puis, il y a également des habitants citoyens qui peuvent vous rejoindre en dehors de tout mouvement associatif.
Tout à fait. On a quelques citoyens qui sont avec nous.
Vous vous mobilisez parce que actuellement cet espace, c'est un espace essentiellement agricole.
Oui, c'est totalement agricole. Donc, ce projet vise à artificialiser 84 hectares de bonnes terres agricoles. Et c'est pour ça qu'on est mobilisé. C'est Douaisis Agglo qui veut implanter sur cette terre des sous-traitants d'électromobilité et aussi qui veut digitaliser l'industrie. On peut entendre par là l'implantation éventuelle d'un data center.
Tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, quand j'entends totalement agricole, je dis oui, mais pas que. Parce qu'effectivement, même si le projet d'artificialisation ne les concerne pas, il y a des prairies, il y a la butte, le parc de l'Enfant Jésus, etc.
Il y a des chevaux là-bas dans le coin, me semble-t-il.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, les terres qui sont... C'est la Brayelle, c'est une espèce d'enclave coincée entre Coincy, ouais. Douai et l'usine Renault. Mais au sein de cette enclave, bien sûr, il y a les terres agricoles qui sont visées par cette artificialisation. Mais pour nous, c'est un tout. C'est-à-dire qu'avec le parc de l'Enfant Jésus, les quelques prairies qui restent, c'est un îlot de nature encore, avec les champs, etc.
Au total, ça fait quoi ? Une centaine d'hectares ?
Oui, une bonne centaine d'hectares.
Mais bien coincé entre des zones industrialisées. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, de toute façon, n'est relié à rien parce que absence de corridor écologique ?
Alors, oui et non. Les corridors écologiques sont bien sûr très utiles, mais malgré tout, depuis de nombreuses années, on a suivi notamment la vie faune du parc de l'Enfant Jésus et on constate qu'il y a quand même une belle brochette d'espèces d'oiseaux. Hein. Et les oiseaux, ma foi, ils passent au-dessus des routes et des autoroutes assez facilement. Donc oui, bien sûr, il y a un effet d'enclavement, il y a un effet d'enfermement, des ruptures. Mais malgré tout, les ruptures... Pour les oiseaux, en tout cas, en particulier, pour toute la vie faune, ça constitue un ensemble, encore une fois. Bien sûr, les oiseaux, la plupart vont nicher dans le parc de l'Enfant Jésus ou dans les grands arbres qui sont dans les prairies. Mais ils vont se nourrir, et pour se nourrir, ils vont, entre autres, chasser dans les champs, les mulots, les campagnols, etc. Et donc, bétonner, artificialiser le centre de cette zone va avoir un impact sur toute la biodiversité qui est tout autour. Alors, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui ne vont pas quitter le parc de l'Enfant Jésus, mais il y a de nombreuses espèces, et en particulier des espèces prédatrices, qui régulent les micro-mammifères, etc., qui, elles, seront privées d'un terrain de chasse important.
La préoccupation, c'est que des terres agricoles ou des espaces naturels partent en artificialisation afin d'y développer des secteurs de l'industrie, mais en même temps, on est sur une industrie tournée vers l'avenir. Enfin, on nous parle de transition écologique nécessaire, d'indépendance énergétique, d'indépendance également liée à l'Internet. Il faut bien quand même qu'on se donne les moyens de produire localement, ce qui va nous permettre d'être dans cette transition. Votre discours, c'est OK, d'accord, mais pas chez nous.
C'est un peu ça, parce que on a tendance à considérer le Douaisis comme une zone sinistrée. Alors on peut en rajouter un peu plus, de toute façon ça ne se verra pas. Mais on n'est pas opposé au développement économique. On se dit c'est pas là. Il y a d'autres endroits où on pourrait faire ces projets.
Mais l'argument qui est annoncé, c'est que actuellement il y a une usine où on fabrique des voitures électriques. Il y a une usine à proximité, on fabrique des batteries. Et que de se dire que si on a besoin de densifier ce secteur, autant que ce soit à proximité et pas aller le mettre à l'autre bout du territoire du Douaisis ou à un autre coin de la région. Parce que c'est pertinent que ce soit chez nous que Douaisis Agglo demande à la région de prendre sur son quota de terres possibles à artificialiser, parce que en se disant c'est là qu'il faut le faire et pas ailleurs, parce que ça prend plus de sens que d'être là.
Aujourd'hui, c'est 84 hectares qui est demandé. Et on pense que ces 84 hectares, on peut les trouver ailleurs. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Douaisy Agglo a ses portes acquéreurs, a acquis et là, 148 hectares à l'occasion du projet d'usine de batterie. Sur ces 148 hectares, aujourd'hui, seuls 18 hectares ont été utilisés pour fabriquer l'usine qui fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y avait 4 autres phases qui étaient prévues, mais on peut même estimer que si une deuxième phase arrive, ça fera encore 18 hectares, il va encore en rester une centaine.
Sauf que on est quand même sur des objectifs à long terme, enfin relativement long terme, on parle d'implantation 2030-2033, on est dans ces calendriers-là. On peut peut-être penser que la réserve foncière qui est disponible justement pour l'installation de l'AESL aura été de toute façon occupée d'ici là et que des projets sont déjà prêts concernant cet espace.
Je pense que s'ils ont des projets pour ce secteur de la Brayelle, ils pourraient très bien, et je suppose qu'ils sont aussi prêts que les autres, et on pourrait très bien utiliser ces terres-là. Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un rayon de 15 km, et ce n'est pas si éloigné de l'usine de batterie, on répertorie sur le site du CEREMA 43 friches industrielles.
43 friches industrielles qui ne sont pas contiguës et donc qui ne représentent pas un espace unique sur lequel on a besoin de place pour installer des équipements de dimension.
Oui, je comprends très bien, mais par exemple, un data center, on n'est pas obligé de le mettre sur cette terre-là. Il y a des terres qui ont une vingtaine d'hectares qu'on peut très bien utiliser pour le data center. Profitons des friches industrielles existantes. Et d'autant plus que parmi ces friches industrielles, certaines sont balisées fonds verts. C'est-à-dire que l'industriel qui va s'implanter va pouvoir bénéficier d'argent supplémentaire pour pouvoir réhabiliter ces friches. Parce qu'effectivement, c'est très tentant pour les industriels d'utiliser des terres agricoles. C'est des terres qui sont vierges. Et on peut beaucoup plus facilement y faire les travaux pour implanter les industries. Alors là, il y a des friches industrielles, fonds verts, qui peuvent être utilisées.
Je vous ai vu, Gaëtan, quand même un peu hocher la tête. Quand je demandais à Alain, on a besoin d'une industrie de biens de fabrication nécessaire à être conforme aux besoins de transition environnementale et sociale. Mais finalement, le discours, c'est oui, ok, d'accord, mais pas chez nous.
Et là, non, c'est pas simple. C'est pas simple. On n'est pas dans la logique not in my garden, quoi. C'est pas. Nous, d'abord, en tant que GON, ce qui nous inquiète, c'est l'impact sur la biodiversité.
Le GON, c'est pour groupe ornithologique
et naturaliste. Voilà. Ça, c'est. Ensuite, on peut se poser d'autres questions. Et je veux dire, on sort de la problématique strictement naturaliste, mais on peut se poser d'autres questions. Est-ce que la société telle qu'elle se développe, est-ce que c'est vraiment l'idéal de société? On peut se poser des questions sur non seulement toujours vouloir plus, est-ce qu'on peut faire aussi parfois diminuer notre impact? Et là, on a l'impression, et je sors du ouais. strictement de ma casquette naturaliste, mais on a l'impression que la société fonce en avant aveuglément vers un mode de développement qui ne profite pas à tout le monde et qui n'est pas forcément totalement souhaitable.
Mais il y a quand même le besoin également de trouver de l'emploi.
Effectivement, on a besoin d'emploi, mais est-ce qu'on n'a pas avant tout besoin de se nourrir et aussi de préserver notre santé? C'est ça qui est aussi en jeu. On veut bien de l'emploi, mais pas de l'emploi à tout prix. Il faut savoir que notre territoire est en déficit de souveraineté alimentaire. Il nous manque 4828 hectares pour pouvoir nourrir la population du Douaisy.
Mais ces terres, justement, est-ce qu'elles sont aujourd'hui des terres où on est dans des conditions de production tout à fait idéal, conforme? On entend également qu'aujourd'hui, dans le pain, on retrouve des choses parce que le blé, parce que ceci, parce que... Voilà, j'ai envie de dire, est-ce que c'est bien que de... Sans compter que certaines de ces terres restent en jachère et perçoivent parfois des subventions européennes.
C'est la question du modèle agricole. Hein. C'est toute la question du modèle agricole. Est-ce que le modèle agricole dans lequel on est, est le meilleur modèle du monde? Question. Hein.
Il y a des moments, moi je me dis, peut-être qu'une usine propre, elle est peut-être moins sale qu'une agriculture pas suffisamment responsable.
le problème aussi, c'est, on parlait d'emploi juste avant, mais c'est aussi des emplois qu'on va supprimer. C'est le nombre d'agriculteurs, il y a
on va également en créer.
Oui, mais pourquoi ne pas garder ces emplois? Il y a un agriculteur qui produit des poireaux, il emploie 25 personnes, ouais. Et une autre qui produit de l'ail, et de l'ail d'Arleux. Donc ce, l'ail d'Arleux, on ne peut pas aller le produire dans le sud de la France. C'est bien, donc il faut pouvoir conserver ces emplois. On regarde ça, un data center, ça va être une dizaine d'emplois. Là, on en a peut-être 50 qui vont être supprimés.
Mais rassurez-moi, de toute façon, si jamais il y a quand même une procédure de compensation, on va bien retrouver un endroit pour que ces exploitants puissent continuer à travailler. On ne va pas le laisser sans rien.
Mais ça va être très difficile, producteur. Parce qu'il n'y a plus de terres sur le Douaisi. Donc, ils vont devoir aller chercher des terres beaucoup plus loin. Et donc, de ce cas-là, il va y avoir aussi de la pollution liée au transport, hein, parce qu'ils vont devoir acheminer toute leur culture par tracteur.
On peut rêver d'une autre agriculture, hein, d'une agriculture plus paysanne qui emploie du monde. Hein, ouais. Encore une fois, derrière cette lutte, au-delà des objectifs strictement opérationnels, j'ai envie de dire, du collectif, il y a vraiment la question de, pour nous, me semble-t-il, nous, ensemble, la question du modèle. Quel modèle économique, quel modèle agricole? Qui est le pilote dans l'avion du développement économique et sociétal actuel?
Aujourd'hui, vous avez quand même engagé des actions, et notamment des actions en justice. Vous ne les avez pas engagées trop précocement, ces actions? Rien n'est décidé.
Alors, on a engagé des actions en justice contre la région. Hein, c'est la région qui a porté un plan d'envergure régionale avec 63 projets, et on estime que cette concertation ne s'est pas déroulée dans les bonnes règles. Il y avait des confusions au niveau des dates qui étaient assez contradictoires, qu'on pouvait retrouver sur leur site, et d'autre part, l'étude d'impact a été incomplète et on n'a pas pris en compte suffisamment les éléments de cette étude d'impact. Donc c'est ce que nous contestons aujourd'hui en justice avec d'autres associations du territoire, parce que les problèmes qu'on rencontre ici dans le Douaisis, on les retrouve du côté d'Amiens avec l'association Patate, on les retrouve dans l'Aisne, on les retrouve dans le Pas-de-Calais, et donc on remet en question donc cette inscription de ces différents projets dans le plan d'envergure régionale.
Vous avez besoin de quoi pour poursuivre la lutte? C'est que d'un seul coup, des organisations très structurées, très militantes, ayant du savoir-faire pour arriver avec des caravanes, des tentes, des braseros et des barbecues, viennent installer une ZAD.
Oui, ben c'est peut-être une idée. On va peut-être les contacter. Pour l'instant, on reste tout à fait dans le cadre légal. Hein. Ouais. Donc on a utilisé la pétition. On a fait une page Facebook pour appeler à signer cette pétition. Aujourd'hui, on a plus de 900 signatures sur cette pétition. C'est un grand succès. Donc on arrive quand même à mobiliser, et on s'attend aussi à devoir engager des frais pour poursuivre notre cours en justice. Donc on a lancé aussi une cagnotte pour pouvoir financer les frais d'avocat qui seront certainement à financer, puisque la région va certainement faire appel à notre recours.
Et pour suivre l'actualité du collectif Alerte la Brayelle, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarp Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.